VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriac.
Bonsoir à tous, il est 19h30 temps universel, Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 24 octobre 2017 en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en visite de 4 jours en Centrafrique. Présidentielle au Kenya, un recours pour le report du scrutin est étudié par la Cour suprême. Réunion sur la sécurité intérieure au Burkina Faso. Et puis, Xi Jinping confirmé patron incontesté de la Chine à l'issue du congrès du Parti communiste. Retrouvez Nicolas Pinault à la fin de ce journal pour les sports et Jacques Aristide pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. Le secrétaire général de l'ONU en visite de 4 jours en République centrafricaine, Antonio Guterres, est arrivé cet après-midi à Bangui. Et sa tournée sera marquée par des séries de rencontres avec les autorités et différents acteurs centrafricains dans la capitale et à Bangassou. On fait le point avec Freeman Sipila.
Arrivé cet après-midi à Bangui, le secrétaire général de l'ONU participe ce soir aux côtés du président centrafricain Faustin Archange Touadéra à la commémoration de la journée des Nations Unies. Antonio Guterres déposera une gerbe de fleurs en mémoire des casques bleus morts pour la cause de la paix en Centrafrique. Le numéro 1 de l'ONU et le chef d'État centrafricain se retrouveront demain au siège de la présidence pour un tête-à-tête suivi d'une déclaration à la presse. Le secrétaire général se rendra ensuite à Bangassou où il rencontrera les responsables locaux, les députés, placés internes ainsi que les membres du comité local de paix. Le jeudi 26 octobre, M. Guterres prendra part avec Faustin Archange Touadéra à une réunion sur le processus du désarmement, démobilisation et réintégration DDRR avant de se rendre ensemble au monument des martyrs pour rendre hommage aux victimes centrafricaines. Son calendrier prévoit également des rencontres avec les représentants des partis politiques, de la société civile, des responsables religieux et des défenseurs des droits de l'homme. Le vendredi 27 octobre, le secrétaire général prononcera un discours à l'Assemblée nationale avant de visiter PK5. Dans l'après-midi, il donnera une conférence de presse à l'aéroport Bangui-Poko avant de quitter la République centrafricaine. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, le chef de l'opposition, accuse la police d'avoir empêché la tenue d'un meeting à Lubumbashi, dans le sud-est du pays, en tirant des gaz lacrymogènes et des coups de feu en l'air. Mais la police a démenti ces tirs. Les Kenyans sont à nouveau appelés aux urnes jeudi pour une élection présidentielle à haut risque. L'opposant Raila Odinga a déjà annoncé son retrait de la course et appelle à manifester massivement. Les précisions de Dili Diko.
L'opposition kényane ne cesse de dénoncer l'organisation hâtive du scrutin, mais la commission électorale assure être prête. Son président, Wafulu Chebukati, de plus en plus isolé, a toutefois émis publiquement des doutes sur la capacité de la commission à garantir la crédibilité du scrutin. Les appels se multiplient en faveur d'un report de l'élection au-delà du 31 octobre. La Cour suprême doit se prononcer après avoir été saisie par 3 militants voulant un report pouvant aller jusqu'à 90 jours. L'opposant Raila Odinga a annoncé son retrait sans une profonde réforme de la commission électorale. De nombreuses manifestations interdites par le ministre de l'Intérieur ont été réprimées. À Kisumu, fief de l'opposition, environ 2000 manifestants ont affronté la police. À Nairobi, des centaines de personnes ont été dispersées au gaz lacrymogène. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, au moins 40 personnes ont été tuées depuis le 8 août par les forces de l'ordre.
L'opposition ougandaise dénonce la détention sans charge depuis plusieurs jours de son leader, Kizza Besigye, et 2 responsables du parti après une manifestation qui avait fait 1 mort. Le point avec Solange Nyamulisa.
Harold Kaija, secrétaire général adjoint du Forum pour le changement démocratique, a déclaré qu'ils sont très inquiets de la détention arbitraire de Kizza Besigye et de ses collègues. Après les avoir visités au poste de police de Nagalama, dans la banlieue de Kampala, il a expliqué que les 3 hommes ont été arrêtés jeudi, au lendemain d'une manifestation à Rukungiri, ville d'origine de Kizza Besigye, où un manifestant avait été tué. Les opposants contestent un projet de suppression de la limite d'âge pour être élu président. Cela permettrait au président Yoweri Museveni, 73 ans, de briguer un 6e mandat en 2021. Hassan Kasingye, porte-parole de la police, a indiqué que Kizza Besigye est impliqué dans une affaire sans donner de détails. Il a ajouté qu'il sera déféré en justice sans donner de date.
Épidémie de peste à Madagascar, le bilan atteint les 124 morts, mais les autorités observent un ralentissement des contaminations. Selon le ministère de la Santé, la maladie a déjà infecté 1133 personnes. Abdel Fattah al-Sissi en visite à Paris. Le président français Emmanuel Macron ne veut pas donner de leçons sur les droits de l'homme à son homologue égyptien qu'il a reçu au palais d'Élysée. Je suis conscient du contexte sécuritaire auquel fait face le président égyptien qui a un défi, la stabilité de son pays et la lutte contre le fondamentalisme religieux, a déclaré le chef de l'État français. Afrique du Sud, le taux de criminalité a augmenté de 1,8% au cours du dernier exercice budgétaire avec 52 meurtres par jour, soit un total de plus de 19 000 morts en 12 mois selon des statistiques officielles publiées aujourd'hui. La province du KwaZulu-Natal dans l'Est, touchée par la violence politique, a enregistré le plus grand nombre de meurtres, suivi du Gauteng qui comprend Johannesburg et la capitale Pretoria. Le ministre de la police préconise une politique plus agressive.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le 19e congrès du Parti communiste a pris fin ce matin au Palais du Peuple, place Tiananmen, à Pékin. 2300 délégués ont approuvé à l'unanimité l'inclusion dans la charte du PCC de la pensée Xi Jinping, qui veut s'attaquer aux déséquilibres socio-économiques et rétablir la place du géant asiatique parmi les puissances mondiales. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
C'est un véritable tour de force qu'a réussi Xi Jinping jusqu'à présent. Seuls les noms de Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine, et Deng Xiaoping, artisan des réformes à la fin des années 70, ces deux noms figuraient dans les statuts du parti. Après quatre décennies de croissance effrénée, la Chine est entrée dans une nouvelle ère et l'homme fort de Pékin veut s'attaquer aux inégalités sociales en améliorant la protection sociale, mais aussi en assurant la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Xi Jinping mise aussi sur ses nouvelles routes de la soie, gigantesques programmes d'infrastructures qui doivent accroître l'influence chinoise à travers le globe. L'objectif est de transformer la Chine en grand État socialiste moderne d'ici 2050. Le pays sera alors doté d'une armée de premier rang mondial. Cependant, aucune libéralisation économique n'est au programme et le pays reste sous la chape de plomb du Parti communiste.
Le secrétaire d'État américain est arrivé au Pakistan. Rex Tillerson va tenter de convaincre Islamabad de lutter plus activement contre les groupes djihadistes au Pakistan et en Afghanistan. Sa visite intervient sur fond de tension entre les deux pays. Le président américain Donald Trump a accusé en août Islamabad de jouer un double jeu en Afghanistan et d'abriter sur son sol des agents du chaos. Le Pakistan a depuis reçu des requêtes très spécifiques pour limiter les soutiens dont bénéficient les talibans et d'autres groupes armés sur son sol, a révélé Rex Tillerson. En Irak, des combats opposaient des forces irakiennes à des djihadistes du groupe État islamique dans la région de Mossoul, deuxième ville d'Irak, reprise au groupe État islamique en juillet. Et en Irak toujours, le Parlement du Kurdistan a reporté les élections législatives et présidentielles. Conséquence de la crise que traverse cette région autonome dont la classe politique se déchire après la perte d'importants territoires face aux forces irakiennes. Le 25 septembre, le président kurde Massoud Barzani avait organisé un référendum d'indépendance. Il prévoyait de céder sa place lors de l'élection présidentielle prévue le 1er novembre. La Russie a opposé son veto à un projet de résolution présenté par les États-Unis au Conseil de sécurité des Nations Unies pour prolonger d'un an une enquête sur l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. C'est la 9e fois que Moscou utilise son droit de veto pour protéger son allié syrien. Ces experts de l'ONU et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques doivent remettre jeudi un rapport sur l'attaque au gaz sarin du 4 avril dans le nord de la Syrie. 80 personnes, dont de nombreuses femmes et enfants, avaient été tuées. Le Qatar va financer la construction d'un nouveau siège pour l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza. Le mouvement islamiste Hamas, qui dirige sans partage ce territoire depuis 2007, est supposé transférer d'ici au 1er décembre tous les pouvoirs, au moins civils, à l'autorité palestinienne, entité internationalement reconnue, censée préfigurer un État palestinien. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, Jacques Aristide, la Minute Éco.
La monnaie unique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ne verra pas le jour en 2020, contrairement à ce qui était prévu. C'est ce qu'a déclaré le président de la commission de la CEDEAO à l'ouverture d'un sommet des chefs d'État du bloc régional à Niamey. D'après Marcel de Souza, la feuille de route visant à aboutir à cette monnaie unique n'a pas été mise en œuvre vigoureusement. Les présidents nigériens Mahamadou Issoufou, ivoirien Alassane Ouattara, ghanéen Nana Akufo-Addo, Nigérian Muhammadu Buhari et Togolais Fornia Singbe prennent part à ce sommet 30 ans après le lancement de l'idée de monnaie unique. La CEDEAO regroupe aujourd'hui 15 pays totalisant 300 millions d'habitants qui utilisent des monnaies différentes. Le géant américain des boissons non alcoolisées Coca-Cola prévoit d'investir jusqu'à 90 millions de dollars au Kenya au cours des 3 prochaines années afin d'augmenter sa gamme de produits sur le marché kenyan, locomotive des économies est-africaines. Le groupe est confronté à une rude concurrence au Kenya de la part des entreprises telles que SAB Miller et Pepsi. La Banque centrale du Botswana a abaissé ce mardi son taux directeur à un niveau record de 5%, invoquant des perspectives d'inflation positive et des efforts pour stimuler l'activité économique. Ce petit pays, relativement riche d'Afrique australe, exporte principalement le diamant et le bovin.
Chaîne sur les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
L'attaquant de Tottenham, Harry Kane, fait flamber les prix.
Et oui, l'attaquant anglais pourrait coûter cher, une somme record de 250 millions d'euros en indemnité de transfert si le Real Madrid souhaitait l'attirer. C'est ce qu'a estimé le président du club madrilène Florentino Pérez. Auteur de 13 buts en 12 matchs cette saison, Kane, un joueur de 24 ans, alimente toutes les convoitises, alors que l'avant-centre français Karim Benzema, qui vient de prolonger en Real jusqu'en 2021, est régulièrement critiqué en Espagne pour des statistiques jugées insuffisantes. S'il se concrétisait un jour, un tel montant surpasserait le transfert record établi par le Paris Saint-Germain pour recruter le Brésilien Neymar. On se souvient cette somme faramineuse, 222 millions d'euros.
Et 10e journée du championnat italien.
Et oui, une belle occasion pour l'Inter Milan. Les Milanais peuvent chipper la place de leader de la Serie A en cas de victoire à la Sampdoria ce soir et mettre la pression sur Naples qui affronte demain le Genoa. La Juventus, qui complète le podium à un point de l'Inter, sera elle opposée au Spal, avant-dernier de la Serie A.
En tennis, Serena Williams garde espoir au Masters de Singapour.
En effet, l'américaine, 5e joueuse mondiale, s'est relancée dans la course à la qualification pour les demi-finales du Masters en décrochant son premier succès aux dépens de la Lettonne Yelena Ostapenko. Le score 7-5, 6-7, 7-5 à Singapour après 3h13 de jeu entre l'aînée des sœurs Williams, 37 ans, et la benjamine du tournoi, puisque Ostapenko n'a que 20 ans. Venus Williams affrontera l'Espagnol Garbine Muguruza. Ce sera jeudi lors de son dernier match de groupe.
Et enfin, la NBA, championnat de basket nord-américain.
Et seulement 4 matchs de NBA et déjà un triple-double pour Ben Simmons. Le rookie australien a brillé et largement contribué au succès de Philadelphie contre Détroit, 97-86. Le champion en titre Golden State s'est rassuré avec une deuxième victoire de la saison contre Dallas, 133-100. Les Bucks de Milwaukee s'imposent 103-94 contre Charlotte. Et dans la conférence Est, la seule équipe toujours invaincue, c'est Washington qui a battu Denver 109-104.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgan Guiriec, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, effectue une visite de 4 jours en Centrafrique. Le mandat de la MINUSCA, qui expire le 15 novembre, devrait être renouvelé. La mission onusienne subit de nombreuses critiques face aux violences qui ont fait des centaines de morts rien que cette année. Et Kabadou a joint à Bangui Joseph Bindoumi de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Ce qui nous intéresse, c'est qu'il donne des instructions pour que les engagements des forces des Nations Unies dans le but de protéger les populations civiles soient respectés et que le chapitre qui leur donne ce mandat soit effectivement appliqué.
Que pensez-vous des 10 000 casques bleus qui sont là, puisque vous dites que vous voulez qu'elles agissent d'une certaine manière? Qu'est-ce que vous souhaitez par rapport à ces forces? Que pensez-vous de leur travail sur place?
Les forces qui sont sur place sont largement équipés, mais ils ne font pas le travail qu'ils sont venus faire. Parce que la première mission qui est la leur, c'est de ramener la paix en République centrafricaine. Malheureusement, quand ils sont arrivés, il n'y avait que 2 groupes armés qui se battaient. Mais aujourd'hui, nous en avons pratiquement 14 qui sont sur le terrain. Deuxièmement, quand ils sont arrivés, il y avait un nombre raisonnable de victimes. Mais aujourd'hui, le nombre de victimes qu'ils ont trouvées est multiplié pratiquement par 8 ou par 10.
Au vu de ce que vous dites, vous avez l'impression que ça empire?
Oui, mais non seulement que ça empire, mais que nous avons relevé des crimes graves, des atteintes graves ou des violations graves des droits humains. C'est des meurtres, c'est des viols, c'est des abus sexuels. Et en leur présence constante, par lesquels eux-mêmes ils ont filmé, documenté, alors qu'ils avaient l'obligation de ne pas laisser faire. Nous avons aussi des preuves que les forces négatives ont traversé leur protection, leur zone, leur barrière pour aller commettre des actions et revenir traverser cette même barrière. Nous avons des preuves de ça. 12 000 hommes de troupes avec des avions de combat, des moyens de communication les plus modernes, y compris des drones, des véhicules blindés. Ces violations que nous connaissons aujourd'hui en République centrafricaine ne devraient pas l'être.
Voilà, c'était Joseph Bindoumi de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Et Kabadou, avec vous, dans Washington Forum, ce jeudi, le point sur la situation en République centrafricaine. Depuis 2013, plusieurs groupes armés sèment la désolation dans le pays, malgré la présence de plus de 10 000 casques bleus. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, effectue une visite en RCA. Faut-il envoyer plus de casques bleus? Comment sortir de cette crise? Comment rétablir la paix dans le pays? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
C'est une première au Burkina Faso, des assises nationales sur la sécurité. Elles réunissent depuis ce matin à Ouagadougou près de 600 personnes. L'objectif est d'aboutir à l'élaboration d'une nouvelle politique sécuritaire. Le pays, il faut dire, a été la cible de plusieurs attaques djihadistes depuis 2015. Sur la pertinence d'un tel forum, Bagassi Koura a joint l'analyste politique Siaka Koulibaly.
Le pouvoir en général semble très sceptique quant à l'efficacité du forum à l'heure actuelle, étant donné l'aptitude du phénomène de l'insécurité. Mais je pense que au vu de la thématique qui est proposée, le forum peut avoir sa justification, en particulier s'ils arrivent non seulement à mobiliser les acteurs pertinents, mais aussi à animer de telle sorte à ce que ces acteurs-là contribuent efficacement à la formulation d'une réponse de l'État soit vraiment efficace sur le problème. Donc, il s'agit d'avoir une réponse qui soit globale, complète, et non pas seulement axée sur les aspects purement militaires.
À votre avis, est-ce que tous ceux qui devraient prendre part à un tel forum ont été conviés?
Bon, je ne peux pas répondre de façon absolue à cette question, étant donné que je n'ai pas encore vu la configuration de la participation. Et j'imagine qu'ils ont... Enfin, je veux parler du ministère de la Sécurité, ont identifié la question de la contribution de tous les acteurs à la question sécuritaire.
Il y a quelques semaines, quand on a annoncé ce forum-là, les critiques disaient que c'était un autre forum de plus, parce qu'on connaissait déjà les problèmes en ce qui concerne la sécurité.
Oui, cet argument financier, à mon avis, n'est pas très pertinent parce que le forum est évalué à 155 millions et ce n'est pas ce montant qui va nous assurer une mise à jour efficace du matériel militaire et de la formation. Il faut plusieurs milliards, dizaines de milliards pour pouvoir résorber le déficit matériel et de formation que les forces de défense et de sécurité connaissent aujourd'hui. En revanche, ce forum, s'il est bien animé et bien conduit, il peut permettre de régler deux types de problèmes. D'abord, le dysfonctionnement entre les différents services de sécurité, en particulier police et gendarmerie, qui influence aujourd'hui la question du renseignement, et aussi la contribution des groupes non étatiques, puisque plusieurs services de sécurité, y compris le chef d'état-major général de l'armée, a parlé de la non-contribution des populations à leurs activités. Donc, ces deux questions en particulier peuvent être résolues par le forum.
Nsiaka Koulibaly, analyste politique au Burkina Faso.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Le 6 novembre prochain devrait reprendre devant la CPI, la Cour pénale internationale, le procès de Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes commis en Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale de 2010-2011. En attendant la reprise de ce procès, Georges Ibrahim Tounkara est allé à la rencontre de quelques Ivoiriens pour recueillir leurs impressions.
Le 6 novembre prochain, les Ivoiriens seront sans doute encore nombreux devant leur petit écran pour suivre le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, un procès qui les passionne depuis son ouverture en janvier 2016. Jean-Marc Kouassi est étudiant, il plaide pour une justice équitable.
La justice doit être équitable, c'est-à-dire que c'est le remède d'une nation. Lorsque la justice n'est pas faite là, c'est des plaies, c'est comme un volcan qui est en train de bouillir à petit feu bien matin. On aurait souhaité soit on règle ça comme en Afrique du Sud, on fait table rase et puis on avance. La justice là, il faut que les deux parties ou un conflit viennent s'expliquer. Quelque part, moi je salue le procès parce qu'à travers le procès, il y a des choses qu'on ne savait pas, des choses que les Ivoiriens ne savaient pas, qui ne vont pas sortir.
Franck Bailly est lui fonctionnaire. Il est temps, dit-il, que ce procès prenne fin et que les Ivoiriens se retrouvent en vue d'une vraie réconciliation.
Je crois que ce procès doit s'arrêter. Parce que plus on va de procès en procès, de témoin en témoin, ça peut frustrer, puis ça peut encore révolter la population. Pour une paix durable, on doit essayer de s'asseoir nous tous pour qu'ensemble les Ivoiriens puissent connaître la vérité, la vraie vérité. Et dire, même s'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de grave, aujourd'hui c'est le temps du pardon, c'est le temps de la vérité, laissons tomber tout. On doit arrêter ce procès, on doit trouver un terrain d'entente entre nous les Ivoiriens pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant.
Au mouvement ivoirien des droits humains, on n'entend pas les choses de cette oreille. Le MIDH se réjouit de l'organisation de ce procès et espère que toutes les parties seront entendues par la CPI. Maître Yacouba Doumia du MIDH.
Nous attendons aussi en fait l'action de la Cour pénale internationale par rapport aux partisans de M. Ouattara qui voilà, ont aussi commis des exactions. Nous en appelons en tout cas au bureau du procureur pour que les enquêtes qui ont été ouvertes puissent être menées à terme, que le procès de M. Gbagbo et Blé Goudé puisse arriver à terme et que nous sachions exactement, voilà, vous avez bien vu qu'il y a des témoignages qui nous ont permis de comprendre un peu l'organisation des forces de défense et de sécurité. Et donc, d'autres procès pourraient nous permettre de comprendre l'entièreté des responsabilités dans la crise que nous avons vécue.
Rendez-vous le 6 novembre pour la reprise du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, l'ex-leader de la jeunesse proche de l'ancien président ivoirien. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Maroc, Nasser Zefzafi, le leader du mouvement de contestation de la région du Rif. Et une trentaine de prévenus ont comparu aujourd'hui devant la cour d'appel de Casablanca. L'audience a été renvoyée au 31 octobre à la demande des avocats de Zefzafi. La cour s'est également prononcée sur le cas du directeur du site d'information Badil, Hamid El Mahdawi, poursuivi lui aussi en lien avec ce mouvement du Irak. Yacouba Ouedraogo a joint Nadia Bencher, journaliste freelance à Casablanca.
La séance a connu un certain désordre en raison notamment de la salle jugée petite pour le déroulement du procès. Une pagaille causée vraisemblablement par le manque de sièges pour détenus et avocats. Les détenus au nombre de 32 personnes n'ont pas pu s'installer face au juge par manque d'espace, mais aussi parce que les avocats de la défense n'ont pas souhaité céder leur place. Par ailleurs, Nasser Zefzafi, dont c'est la première apparition depuis son arrestation, a contribué à chauffer la salle en proférant des slogans de militantisme, des slogans repris par les familles des détenus présents sur place.
Quel genre de slogan Nasser Zefzafi scandait?
Des slogans genre, je cite, « Vive le Rif ».
Le procès a été ajourné au 31 octobre, il fallait s'y attendre?
Non, puisque personne ne connaissait les conditions ni comment ça allait se dérouler. Bon, finalement, il a été décidé en commun accord avec les avocats, etc., de reporter le procès de Nasser Zefzafi. Pas plus d'informations non filtrées.
Quels sont les chefs d'accusation qui sont retenus contre Nasser Zefzafi et ses co-accusés?
Entre autres, atteinte à la sécurité de l'État, tentative d'homicide volontaire et trouble à l'ordre public.
Et qu'est-ce qu'ils encourent comme sanction?
Pour l'instant, personne ne peut dire qu'il encourt tant ou tant ou tant. Peut-être qu'il encourra plusieurs années d'emprisonnement, mais seule l'issue du procès pourra déterminer des sanctions qui lui seront appliquée.
La cour d'appel de Casablanca doit aussi traiter du cas de Hamid El Mahdawi, journaliste et directeur de publication du site d'information Badil. Qu'est-ce qu'on lui reproche?
Oui, ce procès concerne trois dossiers groupes, dont celui de Zefzafi, Nabil Hamjik et le journaliste Hamid El Mahdawi. Le journaliste aurait été reconnu coupable d'incitation d'individus à commettre des délits par des discours dans des lieux publics. Il a été condamné à 3 mois, puis sa peine a été alourdie à 1 an, suite à quoi il avait entamé une grève de la faim, mais qu'il a interrompu à l'appel du comité d'avocats qui assure sa défense.
Donc sa peine a été maintenue, sa peine d'1 an de prison.
Pour l'instant, il est toujours parmi donc les personnes qui figurent dans ce groupe de personnes incriminées.
Est-ce que les manifestations ont cessé dans le Rif?
Jusqu'à présent, oui, c'est le calme qui règne.
Voilà, c'était Nadia Bencher, jointe à Casablanca.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Pourtant, on s'aimait à plein temps.
musique, c'est Layana, toi et moi. C'est la fin de cette édition, la mise en onde Lionel Gaïma, présentation Morgan Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook, rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24/24. Au revoir.